9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, comme votre sentiment d'imposture ce matin. Je reçois Virginie Méglet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Contente de vous revoir. Hein. Vous êtes psychanalyste, spécialiste de la philosophie alderienne et fondatrice de l'association et du site internet Psychanalyse en Mouvement. Vous êtes autrice de nombreux livres, mais vous nous venez nous parler ce matin de votre nouveau livre qui s'appelle « Se libérer du sentiment d'imposture, s'autoriser à croire en soi » aux éditions Erol. Pourquoi parlez-vous de sentiment d'imposture et pas du syndrome de l'imposteur ?
Bonne question. Parce que le syndrome de l'imposteur est un révélateur du sentiment d'imposture qu'il y a derrière. Alors c'est vraiment bien qu'on nous parle du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose qui s'est manifesté beaucoup dans le monde professionnel. Hein. Et à ce moment-là, on va parler de syndrome de l'imposteur parce que c'est assez disons qu'il y a certains paramètres qu'on retrouve en situation professionnelle. Et c'est comme ça que ça a été révélateur du sentiment d'imposture. Mais derrière ça, il y a ce sentiment qui est complètement invisible, que beaucoup d'entre nous partageons. Et je trouvais ça plus intéressant d'interroger ça, pas simplement justement d'un point de vue social ou professionnel. C'est renvoyer chaque personne à son intimité, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et partant de là, c'est le meilleur moyen de résister au syndrome de l'imposteur.
Très à la mode, hein, le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens se sont emparés de l'expression. Voilà. C'est mon syndrome de l'imposteur.
Voilà. Et d'autres diront, moi, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça, c'est le fait que ce soit la mode. Parfois, les modes sont bien parce que ça révèle, comme je disais, mais en même temps, ça... c'est ça, et j'irai presque, et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est bien avec ou pas? On peut le constater, mais qu'est-ce qu'il produit? Et est-ce qu'on peut ne pas en souffrir? Parce que cela étant, c'est quand même l'objet d'une véritable souffrance intime. C'est souvent aussi l'objet de véritables abus dans le cadre professionnel et d'un malaise. Et moi, je pense que le terme de santé, là, est propre à l'émission. Moi, je trouve que c'est vraiment une question de santé aussi que d'arriver à se sentir bien là où on est à la bonne place. Et qu'effectivement, ce sentiment d'illégitimité qui est un peu caractéristique du syndrome et du sentiment d'imposture, c'est vraiment tellement déstabilisant en termes de santé que je pense qu'il ne suffit pas de constater qu'on l'a. Est-ce qu'on peut, en effet, croire en soi et en venir à bout, hein, mais vraiment en termes de santé.
Voilà comment on vient à bout de ce sentiment.
Voilà.
Une définition, l'imposteur, c'est quoi ?
Alors, le véritable imposteur, c'est ça aussi, c'est qu'il y a l'imposteur et ceux qui ont un sentiment d'imposture. Ceux qui ont un sentiment d'imposture, en général, ont peur ou ont l'impression d'être un imposteur sans en être un. Tandis que l'imposteur, le propre de l'imposteur, c'est qu'il ne se sent pas du tout dans l'imposture. Ça, c'est un peu important. Et que, en contrepartie, effectivement, c'est quelqu'un qui ment sans savoir qu'il ment, qu'il trompe sans savoir qu'il trompe, enfin, ou sans vouloir le reconnaître, qui en impose, qui va intimider, et qui, en général, du fait même que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'authenticité, et qui abuse de son pouvoir ou de son prestige sur quelqu'un en racontant des histoires qu'il laisse croire comme vérité, soit il déstabilise l'autre. Ça, c'est ça, je pense que c'est important dans ce syndrome, c'est que souvent le sentiment d'imposture naît en face d'un véritable imposteur qui, lui, n'en a pas du tout le sentiment. Ça, c'est quelqu'un qui... étymologiquement, c'est celui qui en impose. En impose en étant très très sûr de lui, quoi qu'il raconte, quoi qu'il fasse.
Et alors, imposteur, quel en est le féminin ?
Alors, voilà, et moi, ça m'amusait quand même, parce qu'on se plaint souvent en tant que fille, en tant que femme, il n'y a pas de féminin, et ça, il n'y en a pas. Et après, on peut en créer, il y en créera, mais donc, moi,
impostrice.
Impostrice, voilà, c'est ça. Donc, on peut dire, point de vue grammatical, on peut dire imposteuse, impostrice, mais disons que juste ça, en tant que personne, ça n'existait pas. Moi, je me suis même amusée à dire, pourquoi pas une impostoresse ? Enfin, il y a bien les docteurs et les doctoresses. Mais disons que ce sont des mots qui sont jamais employés. Et c'est peut-être pour ça que même les femmes ou les filles vont souffrir du syndrome de l'imposteur et pas de l'impostrice. Vous voyez, c'est ça.
Et d'ailleurs, vous dites que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus féminin que masculin, oui. que de souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi ?
Alors ça, parce qu'en fait, ce sentiment, en fait, on pourrait dire aussi, ça correspond à toute époque, ça existait. Ben, ça, on disait aussi des expressions pas forcément heureuses, c'est être mal dans sa peau, ne pas être à côté de ses baskets, ou est-ce que comme c'est des gens qui sont pas vraiment bien à leur place au bon moment. Et finalement, souvent, ces personnes ne sont pas bien à leur place parce qu'elles n'ont pas vraiment de place. Et c'est pour ça que ce sont souvent des minorités. Alors, bien sûr, il y a autant de femmes que d'hommes, je crois, ou à peu près, ou peut-être le contraire, en tant que naissance. Mais là, c'est au niveau, elles étaient considérées finalement comme minoritaires. Mmh. Et minorité, c'est-à-dire pas simplement en termes de nombre. C'est qu'effectivement, c'était voilà, comme d'ailleurs en français, on dit maintenant un peu moins maintenant, mais pour dire l'être humain, on disait l'homme. Hein? Donc on disait pas la femme si on est la femme, non. Donc il y a ce côté, c'est caractérisé par quelque chose qui est de l'ordre de la minorité. Hein, après minorité, infériorité, et c'est pour ça que ce seront plus souvent les femmes qui le développent, mais comme en même temps elles sont quand même un peu plus reconnues, elles ont plus de place, elles se sentent aussi le droit de l'exprimer. C'est-à-dire, en sentant que ce que beaucoup ont accepté pendant longtemps sans rien dire, hein, voilà, d'être timide, d'être derrière leur mari, d'avoir des postes toujours seconds. Là, maintenant, ben, elle commence à s'autoriser à l'exprimer. Voilà, c'est aussi pour ça que ça peut être à la mode. Hein, c'est pas qu'il est plus fréquent, mais c'est qu'il est. Voilà, on commence à avoir le droit d'en parler.
Alors, ce syndrome de l'imposteur dont nous parlons ce matin, c'est pas une maladie. Hein, c'est pas dans le livre. Voilà. C'est pas le grand livre des maladies mentales.
Le DSM. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que on a une époque où moi, je trouve qu'il y a une vulgarisation de qualité qui vient de la médecine, de la psychiatrie, de la psychopathologie. Et comme ça, on va prendre des mots, des termes comme ça parce que même si on les connaît pas, ils font écho. Hein, c'est, on va dire, bah oui, par exemple, il y a deux termes qui ont vraiment trouvé leur audience dans le grand public, c'est le déni, hein, ou le clivage. Voilà. Alors que ce sont des mots vraiment qui appartiennent à une nosographie de psychiatrique. Et le syndrome, c'est pareil. Au départ, le syndrome, c'est un terme psychopathologique, mais le syndrome de l'imposteur ça exprime bien, alors ce mot que j'aime pas trop, mais ça exprime bien un ressenti personnel, voilà, c'est quelque chose qui, et alors donc on a cherché à délimiter ce qui pouvait caractériser ce sentiment, ou plutôt ce syndrome en l'occurrence là, professionnellement.
Alors il y a plusieurs synonymes, hein, sentiment, symptôme, syndrome ou complexe de l'imposteur.
Oui. Oui.
Voilà. Quel est finalement le comment vous emploieriez justement tous ces mots différents que sont le sentiment, le symptôme, le syndrome ou le complexe?
Ouais. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler du sentiment. Bon, sauf que déjà, moi, j'aime bien parler de l'indicible, donc, et de ce qu'il y a derrière, cette intimité qu'on a besoin de respecter en termes de pudeur, autant c'est important de ne pas l'ignorer. Mmh. Ce qui se passe en nous. Et disons que c'est ce sentiment, comme ça, fugitif, plus ou moins fugitif, qui surgit dans différentes situations. On va dire, on va le retrouver aussi bien dans le syndrome de l'imposteur que dans le complexe de l'imposteur aussi. Voilà, c'est toujours celui-là que l'on retrouve. Et c'est pour ça que plutôt que de chercher, à soigner son syndrome ou son complexe, c'est ben oui, mais s'il vient exprimer quelque chose, qu'est-ce que c'est quelque chose de légitime? Et plutôt que de dire qu'on l'a, et d'après de se conformer, hein, à ce syndrome, ben non, on dit, ben oui, apprends à sentir ce que tu vas. Voilà, trouver la légitimité, si on pourrait dire, du sentiment d'illégitimité que l'on retrouve dans chacune de ces appellations.
Mmh. C'est voilà. Quoi c'est, en fait, c'est ça, c'est ce sentiment d'être illégitime.
Voilà, c'est un sentiment d'être. Voilà, le sentiment, c'est quelque chose de fugitif, parce que presque une fois que c'est dit, dès le moment où on le dit, on a une certaine légitimité. Donc, mais c'est vraiment un vécu. Et on cherche les mots, l'autre côté, c'est ça, c'est de ne pas être à la bonne place au bon moment, hein, de se demander ce que l'on fait là, de peiner à s'affirmer. Hein, c'est là où on va. il y a quelque chose qui semble évident, et puis on va le dire, mais non, on n'ose pas le dire parce que c'est pas légitime de le dire, ou qu'on a peur, on a peur des réactions, donc on est aussi beaucoup plus sensible aux réactions, donc on n'ose pas affirmer quelque chose. Hein? Et le fait de ne pas pouvoir affirmer, c'est qu'on le garde par-devers soi, et du coup ça renforce le sentiment d'illégitimité, parce qu'on existe aussi dans une relation. Donc si on n'arrive pas à s'exprimer, eh ben, est-ce qu'on a le droit de vivre, puisqu'on se, quelque part, on ne peut pas vraiment se l'accorder. Ou en tout cas, si on se l'accorde, c'est en ressentant un vrai malaise qui fait qu'on n'ose pas prendre la parole, on a du mal parfois même, on a envie de disparaître, hein, ou préfère être ailleurs plutôt que là, alors que c'est vraiment là qu'il s'agit d'arriver à être. Mmh. Enfin là, dans le sens ici et maintenant, enfin, je veux dire. Mais,
voilà, et c'est là qu'est notre place.
Voilà, c'est là qu'est notre place, mais elle est vécue comme si ça n'était pas la bonne, parce qu'elle est inconfortable. Et que l'autre côté, c'est qu'effectivement, ça se traduit par des sensations. Qui sont le psychique. On n'est pas d'un côté psychique et d'un autre côté physique. Il y a un éprouvé physiologique. Et donc, plutôt que de juguler ça, d'apprendre aussi. Ben oui, je le ressens. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est un travail personnel auquel j'ai envie d'inviter autant. Parce qu'en général, en plus, je pense que les personnes qui ressentent ça sont souvent des personnes qui auront une plus grande fragilité, bien vulnérabilité peut-être, mais surtout qui ont vraiment aussi un véritable désir d'authenticité. Donc, c'est là où, tout à l'heure, quand je disais, c'est souvent devant un imposteur qu'on ressent ce sentiment. Ben, c'est vrai que devant quelqu'un qui ment, mais dont tout le monde est persuadé que c'est la vérité, on a un sentiment de mal-être, ben c'est normal, d'une certaine façon, vous voyez, je veux dire, plutôt que de vouloir juguler, de s'engueuler, pardon, soi-même, pour dire arrête, tiens-toi bien, tu vois pas, tout le monde a l'air à l'aise, mais non, écoutez aussi ça, pour se faire confiance dans ce que l'on sent, et ben oui, vous voyez, c'est sous ça.
Virginie Méglet est avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, hein, s'appelle Se libérer du sentiment d'imposture, s'autoriser à croire en soi aux éditions Erol.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle du sentiment d'imposture, du syndrome de l'imposteur ce matin. Une thématique qui est souvent galvaudée et simplifiée à l'extrême, alors que c'est une thématique qui est complexe. Et on en parle ce matin avec mon invité Virginie Méglet, qui est psychanalyste et qui publie « Se libérer du sentiment d'imposture, s'autoriser à croire en soi » aux éditions Erol. Vous dites, vous, que, effectivement, dans votre livre, que le sentiment d'imposture est un phénomène complexe. En quoi est-ce que c'est complexe ?
Ben, c'est pas, quand, une fois qu'on est, c'est un peu comme un diagnostic, une fois qu'on fait un diagnostic, même pour une maladie même physique, hein, on a l'impression que ben, c'est simple. On dit ça, ben, la rougeole, par exemple, et donc le syndrome de l'imposteur. Et alors qu'en fait, eh ben, qu'est-ce qui concourt à donner à certaines personnes ce syndrome et pas à d'autres, hein. Et que là on voit, ben, il y a plusieurs niveaux par lesquels on peut l'aborder pour comprendre. Alors, c'est pour ça que je maintiens, c'est quelque chose, justement, c'est là, il faut penser la légitimité de ce sentiment d'illégitimité. J'ai fait exprès de dire comme ça, rien que ça c'est un peu complexe, hein. On dit quelqu'un qui dit « je me sens pas bien à ma place », alors on me dit « mais si, t'étais bien à ta place, on va insister de ça ». Non. Ah, si tu as de bonnes raisons de ne pas te sentir bien à ta place, nous on va te montrer que c'est ta place, enfin, on va t'aider à faire en sorte que tu sois bien à ta place, parce que c'est vraiment ta place, mais effectivement, si tu as cette sensation-là, ben, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Alors là, il y a des pistes qui peuvent permettre de les trouver, mais c'est en ce sens-là où c'est complexe. Et après, il y a au niveau personnel, qu'est-ce qui a pu produire le sentiment. Alors on retrouve des permanentes, tout le monde les a pas et tout le monde les a pas en même temps.
Alors expliquez, oui. Voilà, sur quoi ça repose, ce sentiment d'imposture.
Sur quoi ça repose, en ce sens, qu'est-ce qui peut le causer.
Qu'est-ce qui peut l'expliquer, voilà, par exemple. Vous dites que ça naît toujours d'une fragilité.
Voilà. Et ça, alors, cette fragilité, ça peut être autour de la naissance, ça peut être autour de la position dans une fratrie, ça peut être aussi dans l'héritage. C'est qu'effectivement, par exemple, des parents qui ont un sentiment d'imposture que les enfants n'imaginent pas forcément au départ, hein, parce que les parents sont presque les dieux, mais ils sont mal à l'aise, ils sont. Donc ça se communique dans une famille.
Ça veut dire que c'est quelque chose, effectivement, qui se transmet.
Voilà, qui se transmet. Alors après, dans la même fratrie, il pourrait y avoir, mettons, c'est simplifié ce que je vais dire, mais quand même en grande ligne, il y en a un qui, du coup, ne se sentira pas du tout un imposteur, quitte en être vraiment, mais pour réagir contre ses parents, par exemple, ou contre son père, ou contre sa mère, ou l'autre qui, au contraire, n'osera pas non plus s'affirmer, aura beaucoup trop de scrupules, aura peur, tout ça. Ouais. Mais il y aura la transmission, soit par la négative, soit par la positive.
Déjà, mais pourquoi ne pas s'affirmer? C'est quoi? C'est de la timidité?
C'est la timidité. Et cette timidité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est là où, au niveau du vécu, qu'est-ce qui peut engendrer cette timidité? Cette timidité, soit dans une fratrie, il y a vraiment un enfant qui est en minorité parce que c'est le dernier d'une fratrie de 10, par exemple. Voilà, il est quelque part, il est écrasé par les 10. Ça peut être aussi une timidité, un enfant qui est né juste après un enfant décédé. Donc il a vraiment sa place, mais s'il est là, mais en même temps, il a la place de l'autre. Donc il a aussi, quelque part, il aurait pu être envahi par la mélancolie maternelle et donc avoir du mal à s'exprimer, à se soustraire à ça. Donc ça, c'est déjà deux points qu'on peut retrouver. Après, ça peut se retrouver aussi, même si c'est pas à la naissance vraiment, ça peut être aussi revenir représenter un oncle ou une tante ou un frère qui est aussi décédé. Et donc mis en forme de rivalité inconsciente par les parents avec un mort, qui fait que on a peur de prendre la place du mort. Voyez, c'est bizarre de dire ça, mais oui, c'est ça. Donc on ne veut pas l'apprendre, et en même temps il faut l'apprendre. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment assez beau à penser d'une façon intime, envers chacun. Et après, quels sont les autres? Il y a aussi des traumatismes à la naissance, un enfant qui aura perdu sa mère. Est-ce que je vais avoir le droit d'exister si maman est morte quand j'étais tout petit? C'est ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire même un accident qui fait que l'enfant a été fragilisé. Après, il va peiner à s'affirmer comme les autres. Alors les autres à l'école ne seront pas forcément tous des imposteurs, mais effectivement lui-même, soit parce qu'il en a gardé un handicap visible, soit un handicap invisible, qui fait que il peinera à s'affirmer parmi les autres. Et en général, si on n'y fait pas attention, c'est là où ça va s'accentuer. Et vraiment, on peut voir donner lieu, transférer, on peut dire, du milieu scolaire au milieu professionnel, vraiment. Voilà, comme syndrome de l'imposteur, quitte à ce que se soigner, parce que ça, c'est l'autre côté aussi. On peut avoir ce syndrome, et puis à un moment donné, là aussi, choisir de le nier, et dire non, moi, je vois des gens comme ça qui ont envie de dire je ne l'ai pas du tout, et qui, effectivement, ne se sentent pas vraiment à leur place. Voyez ? Donc, voilà, c'est quelques cas qui peut concourir justement à cette complexité aussi.
Alors on peut prendre des exemples, par exemple des gens qui font des exploits ou qui travaillent dur pour obtenir quelque chose et quand on les félicite, qui refusent les félicitations, qui disent non, j'ai eu de la chance, enfin voilà.
Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est là où c'est vraiment la clinique de l'intime, et je trouve que c'est vraiment de l'ordre de la chirurgie. C'est que, déjà, par exemple, quand c'est une femme, elle peut avoir envie de faire des exos sportifs, mais elle pourrait être moins maintenant, mais il y a 20 ans, tout en ayant envie de le faire, elle a une mémoire de personnes pas reconnues. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais m'autoriser à faire ça? Donc, effectivement, elle va dire non, j'y suis pour rien, j'ai gagné un concours, il y avait des hommes qui étaient, mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est presque ça, voilà, parce que on a une mémoire comme ça qui fait qu'on a un peu comme un interdit de vivre au grand jour. Il y a le fait qu'on retrouve souvent justement chez des enfants qui mais pas seulement mais c'est qu'un enfant décédé, enfin qui ont été précédés par un enfant décédé, où effectivement il y a un inconscient maternel ou familial qui leur demande de pas blesser, de pas de se tenir bien, de prendre la place du mort, et puis en même temps ils ont peur aussi. Enfin, donc souvent ce sont des personnes qui auront plus de mal à s'exprimer, mais quand même animées d'un grand désir de vivre. Et donc à ce moment-là, vont sans s'en rendre compte, mais enfin, je dis ça parce qu'en même temps j'ai parlé hier encore avec une personne qui avait pas du tout dans cette cas de figure d'un enfant décédé qu'il avait procédé, mais qui avait même ça, c'est qu'à un moment donné c'est comme une minorité avec un grand désir de vivre quand même, donc mettre en œuvre une énergie folle pour y arriver. Mais quand j'ai une énergie folle, je veux dire, c'est aussi très très créatrice, et être presque étonnée de leur succès, et en même temps tellement, on pourrait dire, mise hors d'elles-mêmes, que quand elles ont gagné, elles n'ont presque plus le moyen d'assumer leur succès. Donc c'est un apprentissage, hein, je pense aussi. Mmh. Après, mais si, c'est vraiment toi. Mais si on ne fait pas cet apprentissage, effectivement, ça fait une espèce de cercle vicieux, on dirait un cercle vicieux, qui fait qu'elles ont succès. Au lieu de le savourer, elles vont en sortir, puis elles vont recommencer toujours à faire des exploits. Hein, toujours. Et donc jamais métaboliser les bienfaits de leurs efforts. Enfin, je sais pas si j'ai...
Si, mais pourquoi cette injustice vis-à-vis de soi-même ?
C'est l'injustice vis-à-vis de soi-même. C'est, alors, déjà, c'est parce que c'est...
Aujourd'hui, on dirait malveillance, parce que oui. Enfin, par opposition à la bienveillance. Hein.
Eh bien, je dirais presque le contraire. Parce que on parle beaucoup de bienveillance, et moi, j'ai envie de dire, c'est de la veillance. Une maman, elle ne bienveille pas sur son enfant, elle veille. Elle veille, voilà. Hein, elle veille, voilà. Et à côté de ça, ben, y a de la malveillance. Il y a beaucoup aujourd'hui de malveillance. Y en a, enfin, je trouve, très souvent, les gens réagissent très très vite pour ça. Et c'est pour ça qu'on en appelle du coup la bienveillance. Moi, je dis ça, j'ai pensé, est-ce que parfois on me dit bienveillante, je ne sais pas si je suis bienveillante. Bien sûr que dans ma pratique, je ne peux pas ne pas l'être. Mais c'est surtout dans un état de veille pour le bien-être, pour la santé, pour le tout ça. Et que ces personnes-là n'ont pas intégré ça. Parce que d'abord, quand c'est dans une famille, eh ben, c'est souvent un qui est plus sensible que les autres, mettons, à ce sentiment d'imposture, mais tous les autres l'ont. Et que quand il y a du malaise, eh ben, et puis aussi, ce qui se passe aussi, c'est que quand on se sent un peu à part, on se le reproche automatiquement. À un moment. Enfin, il y a un moment, en tout cas, où... Sauf qu'on a vraiment choisi la marginalité, la provocation, l'opposition, etc. Mais souvent, justement, même un enfant, disons, qui a un handicap par rapport à la société, parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que une certaine vulnérabilité, c'est pas forcément un handicap, parce que c'est vraiment, il y a des bons côtés, où le goût de la vérité, c'est peut être vécu comme un handicap dans un monde où tout le monde ment. Mais en soi-même, c'en est pas un. Mais malgré tout, ça crée un déséquilibre, un mal-être, parce qu'on est différent. Ce vécu d'une différence, s'il n'est pas accepté par les autres différents, effectivement, ça crée un sentiment de solitude. Ça passe là aussi par les sensations, ces sentiments désagréables. Et quand on a des sentiments, des sensations désagréables, en général, on est vilain, désagréable avec soi-même.
Il faut être très clair, hein, ce sentiment d'imposture ne correspond à aucune imposture réelle.
Alors, ça ne correspond à aucune imposture réelle, mais alors, quand même, alors c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a un vrai désir de vérité, il y a un vrai désir d'authenticité, mais il y a cette incapacité de vraiment bien se sentir à sa place. Alors, du coup, on a toujours l'impression de tricher pour pouvoir y être vraiment. Et parfois aussi, eh bien, on peut avoir recours à des petits subterfuges, voilà, et qui vont nourrir le sentiment. Donc je pense que là-dedans, c'est pas des vraies impostures, mais par contre, on a peut-être quand même fait des...
Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité, finalement ? Parce qu'au fond de soi-même, on sait qu'on est un imposteur. Je ne dois pas développer dans votre livre.
Non, mais parce qu'on sait qu'on a... Ben, moi, je dis, il y a un moment donné, quand même, il y a un endroit où je n'ai pas revu, où je dis, ben oui, c'est pas parce qu'on... C'est pas pour... Le monde n'est pas divisé, les méchants imposteurs... Et
ceux qui souffrent du syndrome.
Méchants, ouais. Voilà. Je dis d'ailleurs souvent, comme j'avais pris Thomas l'imposteur, où je dis c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment souffert du fait d'avoir été abandonné. Donc ce héros d'un livre de Cocteau, ils ont vraiment souffert d'être abandonné. il a été pris à son propre piège, et là, c'est là où on peut dire, en termes de santé, si on l'avait soigné, il ne serait pas devenu un imposteur. Voilà. Donc, c'est que souvent, on devient un véritable imposteur, donc pas pour se sauver, sauf que c'est la fuite en avant, on va devenir presque criminel, ou au moins envers soi-même, et on va oublier qu'on a des bonnes raisons de l'être.
Non, je vous arrêtais, mais vous aviez le temps de terminer votre phrase. De toute façon, vous êtes notre invité jusqu'à 10h. Virginie Méglet, vous publiez « Se libérer du sentiment d'imposture, s'autoriser à croire en soi » et votre livre sort aux éditions Erol.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on parle du sentiment de l'imposture ou du syndrome de l'imposteur avec mon invité ce matin qui s'appelle Virginie Méglet, qui est psychanalyste et qui publie Se libérer du sentiment d'imposture aux éditions Erol. On parlait de ce sentiment d'imposture qui prend sa source dans l'insécurité. Mais comment expliquez-vous qu'on soit pour soi un examinateur féroce plutôt qu'un entraîneur veillant?
C'est là où je vais répondre par la fin. Ce qui est vrai, c'est vraiment, je trouve que penser le sentiment d'imposture à travers le syndrome de l'imposteur, à travers le complexe de l'imposteur, le complexe de l'autodidacte, c'est vraiment apprendre on a vraiment apporté justement à constater ce regard de malveillance, parce qu'il est tellement naturel qu'on passe son temps, je dis bien, moi c'est toujours le mot s'engueuler qui vient, mais on écoute comme ça, on voit effectivement là-dedans. Et redites-moi bien la question, parce que
je dis pourquoi, comment, plutôt que d'être un entraîneur bienveillant avec soi-même, on est un examinateur imperturbable et intraitable?
Déjà parce que quand on a du mal à s'affirmer, parce qu'il y a quand même une réalité de personnes moins, on peut dire, combatives selon les règles de combat ordinaire. Si on parle des femmes ou des hommes, c'est quand même les hommes qui font les guerres. Hein. Et donc, vouloir aller dans le monde des hommes, en général, ben oui, c'est vouloir aller dans un monde guerrier. Mmh. Et alors, c'est là la question aussi, c'est est-ce qu'on a envie de vraiment devenir un guerrier et un tueur, ou est-ce qu'on a envie d'exister et d'être reconnu par des hommes, mais en disant autre chose, vous voyez, autre chose que la guerre. C'est même pas dire non, la guerre n'existe pas ou c'est pas bien, mais je veux dire, peut pas parler d'autre chose. Mais que cette volonté de là aussi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette volonté de vouloir être reconnu par des gens qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes règles, effectivement, c'est un peu un entêtement. Et donc, qui va produire de mauvaises sensations. Et donc, la sensation d'être en échec aussi, de rater. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on veut vivre comme l'autre. Et c'est là où non. Et donc, si on veut vivre comme l'autre, on va se le reprocher de ne pas être comme l'autre. Alors qu'il ne s'agit pas tant d'être comme l'autre. Il s'agit de s'affirmer auprès de l'autre avec ses propres valeurs, avec sa propre logique, et d'arriver à le développer et peut-être à en reconnaître la valeur avant même de vouloir le faire reconnaître. Mmh. Vous voyez, c'est le ne pas se rendre dépendant de quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité. Vous voyez, c'est par contre l'affirmer soi-même.
Le sentiment d'imposture, écrivez-vous, c'est être écartelé entre un surmoi hyperpuissant et un ça sans mesure. Oui. Vous nous expliquez?
Oui, ben, disons que le surmoi. Alors, ce sont des termes qui ont été créés par Freud, et je vois parmi assez intéressants, parce que je pense que c'est assez universel. Ce sont des instances plus ou moins conscientes. En tout cas, les motivations sont inconscientes. C'est pas nous qui décidons de les agir. Elles nous habitent. Et donc le surmoi, c'est toutes les injonctions, les interdictions, la loi, on les reproche. Alors pour le coup, là aussi, on est désagréable parce qu'on les a intégrés. On a intégré ça. Tu es petit, tu vaux rien, t'es nul. Et ça, moi, je sais que même en tant que femme, je me souviens que j'ai dû vraiment. Enfin, très souvent, on me dit c'est marrante, c'est intelligente pour une femme. Ouais, rien que ça, c'est pas. Voilà. Enfin, mais il y a des choses beaucoup plus désobligeantes. temps. J'en ai parlé beaucoup, mais quand même, oh, c'est une rigolote. Mais pas forcément envie d'être rigolote. Non, non, il y a quelque chose que j'ai à dire. Mais donc, on a intégré tout ce qui est de l'ordre du jugement. On l'a intégré parce qu'on a été un petit enfant qui avait eu peur de nos parents ou qui avait envie simplement d'être reconnu par eux. Mm-hmm. Donc, il y a l'idée du bien qui est portée très, très, très haut. Et ça, effectivement, ça préoccupe beaucoup les gens qui ont le sentiment d'imposition. C'est que finalement, ils visent quand même très, très haut souvent. Et à côté de ça, le ça qui est ben, l'enfant qui n'a pas de langage, c'est celui qui chouine, qui crie, c'est un peu l'anarchiste. Hein, c'est donc là où on pourrait dire entre les deux, il y a le moi, qui est celui qui a pas, et c'est comment vivre un moi heureux, apaisé, tel qu'il est, avec, non pas avec les qualités de l'autre, mais avec ses propres qualités. Ça, moi, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus. C'est comment à ne pas se laisser dénigrer, ne pas dénigrer soi-même. Voilà. Donc, c'est là aussi reconnaître de ne pas se placer en tant que victime. C'est-à-dire que quelqu'un qui est désagréable avec nous, il est vraiment désagréable avec nous. Mais il va éveiller chez nous des sensations. Donc, ne pas se placer en tant que victime de l'autre. Mmh. Dire, alors, aller voir comment ça fonctionne en nous et comment, parfois, on s'entretient un peu comme victime parce qu'on n'arrive pas à devenir véritablement acteur.
Alors, comment on se libère de ce syndrome de l'imposture? Déjà, est-ce qu'il faut le reconnaître?
Alors, le premier pas, mais je pense que c'est vraiment le reconnaître plus que le faire, plus, non pas le faire reconnaître, parce que ça, c'est l'autre côté. C'est qu'on voudrait faire reconnaître des choses à des gens qui, soit n'en ont rien à faire, soit en profitent, hein, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, ben, quelqu'un d'autre va en profiter, hein, malgré tout. Donc, aussi, donc c'est le reconnaître. De savoir que c'est un handicap et que même si c'est causé par des éléments extérieurs ou révélés, c'est en soi qu'on a les clés. Moi, je trouve ça vraiment important de se dire, on a tout en soi, voilà, on a pour arriver à écouter ce qui se passe et se dire aussi, mais qu'est-ce que l'on veut vraiment? Hein, c'est-à-dire, parce que ça peut être vrai aussi qu'on ne soit pas vraiment à la bonne place, au bon endroit. Qu'on ait écouté comme ça, qu'on se soit laissé porter par des parents qui vous ont encouragé très très fort à faire certaines études. Donc vous arrivez très très fort, très haut. Mais qu'est-ce que je fais là, hein? Donc effectivement, on ne va pas se sentir à sa place. Et ben c'est peut-être vrai aussi. Donc c'est là où, du coup, apprendre à s'écouter vraiment et non plus chercher simplement à correspondre à l'idée que l'autre a de nous, voyez. Donc ça c'est le, donc c'est pas dire je me suis trompée, c'est se dire bah tiens, j'ai peut-être de bonnes raisons de pas être de pas me sentir à ma place. Donc essayer d'entendre en soi, est-ce qu'on a vraiment envie de se sentir bien? C'est pas toujours évident. Moi je sais que c'est évident, que tout le monde a gagné à le faire, mais c'est aussi un parcours, hein. c'est un cheminement. Je redis, c'est vraiment un cheminement de santé personnelle. Hein,
Donc, une fois qu'on l'a reconnu, comment on fait pour se libérer?
Alors, après, une fois qu'on l'a reconnu, alors il y a d'une façon, il y a plusieurs niveaux. Déjà, socialement, c'est pas mal de trouver des alliés. C'est des personnes qui ressentent les mêmes choses. Et c'est pas pour se plaindre tous ensemble, c'est pour dire, bah oui, non, c'est peut-être vrai qu'il y a peut-être quand même des bonnes raisons à l'extérieur qui fait qu'on se sent un imposteur. Oui, c'est un peu comme quand on est là, une seule personne a senti une odeur de fumée. Ben, mais non, ça sent la fumée. Mais non, t'es pas. Puis à un moment donné, le feu est déclenché. Donc c'est là où c'est ça aussi, on peut se sentir un imposteur, voilà, parce qu'on a une certaine sensibilité que les autres n'ont pas. D'où l'importance de travailler pour avoir une confiance en soi. Mais au niveau des sentiments, des sensations d'abord, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup mieux accepté si on dit, ben non, je ne veux plus de moi. Ben, vous voulez pas savoir que ça sent la fumée, ben moi je le sais, voilà. Et puis donc il y a ça. Donc quand j'ai les alliés, oui, c'est important, parce que c'est vrai que le sentiment d'imposture, comme souvent ça peut donner lieu à un sentiment de solitude, d'isolement, de peut-être un peu dépressif. Alors que si on a des alliés, ben là aussi, c'est moins lourd, ça va, parce que ça va moins se développer, parce que il y a de toute façon dans la vie, il y a du progrès, soit le progrès pour le meilleur ou pour le pire. Donc si on laisse les choses en jachère, c'est vrai que on va se sentir de plus en plus. Donc voilà, donc trouver des alliés, et puis après, c'est peut-être là où quand même, moi j'invite j'écris presque pour éviter aux personnes de faire le travail psy, mais par contre de pas s'épargner le travail, de le faire. Voilà. Cela étant, c'est pour ça dans ce genre de circonstances, c'est quand même pas mal de trouver des soutiens, parce qu'on existe toujours, on existe, on grandit dans la relation. Voilà, si on l'a développé, c'est quand même en relation avec des personnes qui ont concouru à l'avoir. Donc on a ces schémas. Donc, avoir une relation, un véritable accompagnant, ça permet de sentir bien exister en face de quelqu'un. Parce que c'est ça aussi, c'est pas être comme l'autre, c'est pas être reconnu par l'autre, c'est oser exister en face de quelqu'un, voilà, qui peut-être aurait envie de vous nier. Et alors, c'est parce qu'il vous nie que vous êtes nié. Hein. Donc, c'est là où, quand même, je pense qu'un accompagnement. C'est pas 10 ans de psychanalyse, hein. Mais ça peut être utile pour rassurer aussi, pour vraiment, parce que là aussi, s'il y a de l'insécurité, là, on est dans une société qui fait peur, une société qui joue beaucoup, enfin sur la peur et la menace et tout, et que donc si des enfants ont connu la peur ou l'angoisse, la fragilité jeune. On est dans une société qui va renforcer ça. Donc, trouver des lieux qui permettent de se rassurer profondément voilà, en soi-même. Hein, c'est par l'expérience. Et, sinon, alors, je pense dans mon livre, je dois donner d'autres suggestions qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit.
Mais c'est important, finalement, que de faire le travail. Et de le verbaliser et de le faire avec autrui, parce qu'on n'existe qu'avec autrui. Voilà, sans autrui, il n'y a pas de sentiment d'imposture.
Exactement. C'est vraiment ça. Vous résumez très, très, très bien. Et pour le coup, c'est vraiment un travail d'amour et de santé.
Se libérer du sentiment d'imposture, Virginie Méglet, c'est le titre de votre nouveau livre, S'autoriser à croire en soi aux éditions Erol. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement qui reprennent les programmes de beurrefm. Et puis, vous verrez la vidéo et la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.